Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Émilie Talon, avec moi. On est là, sur les hauteurs de Albertville, dans un festival qui s'appelle Le Grand Bivouac. L'émission s'appelle Regarde ailleurs. Donc, Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie de donner la parole à ces gens qui ont fait le choix d'aller voir comment ça se passe ailleurs sur cette planète. Hein, Regarde ailleurs, c'est élargir sa vision sur soi, élargir sa vision sur le monde. Émilie, je t'avais croisé déjà il y a un an, on n'avait pas eu le temps d'échanger parce que les choses se passent très vite sur ce genre de festival où tu passes ton temps à faire des rencontres, à avoir des échanges absolument passionnants. Et là, on prend ce temps de la rencontre, donc avec moi, Émilie, le bouquin dont on parlera, mais pas que, parce qu'il y en a un autre en prévision, Iran, la paupière du jour. Mais avant qu'on me parle de ton livre, c'est toi en fait qui va m'intéresser. C'est un petit peu ton itinéraire de vie. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu as fait le choix de voyager? Donc j'ai cru comprendre que tu incarnes déjà à toi toute seule l'interculturalité, parce que je crois que tu as des origines iranienne peut-être, mais on va tout découvrir là maintenant. À toi la parole.
Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, je n'ai pas d'origine iranienne. Attention, j'ai de la famille qui vit en Iran, mais ce ne sont pas des origines. Je n'ai pas de sang iranien. Je suis française et malgré tout, j'ai un lien extrêmement serré avec ce pays. Donc, en réalité, il y a une cinquantaine d'années, la sœur de ma mère, donc ma tante, a rencontré, alors qu'elle était étudiante à Paris, aux langues orientales, donc déjà tournée vers l'Orient tout de même, déjà avec cet intérêt-là, un jeune Iranien qui faisait ses études de cinéma à Paris, qui allait devenir son amoureux puis mon oncle. C'était l'époque où l'Iran était une monarchie. Et à cette époque du Shah, en réalité, de nombreuses familles de bazaris, c'est-à-dire de commerçants et de familles ayant un peu d'argent, envoyaient leur fils aîné faire des études en Europe. Ça se faisait beaucoup, voilà. Et mon oncle bénéficiait d'une certaine manière de cette habitude. Voilà pourquoi il se trouvait à Paris. Ils se sont donc aimés à Paris un certain temps, et puis à la fin des études de mon oncle, celui-ci, qui était non seulement fils aîné, mais également il avait la charge du coup de toute sa fratrie, hein, d'une certaine manière, il a dû retourner en Iran. Il a dit à ma tante qu'elle ne parviendrait jamais à s'adapter, parce que l'Iran du Shah, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir aujourd'hui, où parfois certains font une stricte opposition entre l'Iran du Shah et l'Iran des Mollahs, mais en réalité l'Iran du Shah était déjà un Iran pas si facile que ça. Bon, d'une part, c'était déjà un régime autoritaire en réalité, et par ailleurs, mon oncle venait d'une famille assez traditionnelle. Mais ma tante était quelqu'un de pugnace et de combatif et qui ne se laissait pas impressionner. Elle est donc partie malgré tout avec lui en Iran. Elle y a vécu donc ses premières années sous la monarchie. Elle y a vu naître et s'y dérouler la révolution. Elle y a eu son premier enfant au moment de la révolution, en réalité. Donc ma cousine Shirin est une enfant de la révolution. Cette cousine va prendre beaucoup beaucoup de place dans ma vie par la suite. Donc ma tante, son mari iranien Mansour et ma cousine ont vécu ses prémices de ses débuts de la révolution. Puis un deuxième enfant est arrivé, Fereidoun, mon cousin, au moment de la guerre Iran-Irak. Moi, je suis arrivée en France, donc plus loin que ça, en 1982, je suis née donc entre ces deux cousins, entre la révolution et la guerre qui s'est déroulée dans les années 80. Et cette famille iranienne a toujours énormément compté pour moi, d'une part parce que j'ai une très petite famille en France, d'autre part parce que les deux sœurs, ma mère et ma tante, étaient très liées, et que ce lien s'est retrouvé d'une certaine manière entre ma cousine et moi. Sachant que je n'ai pas de grande sœur présente qui aurait vécu avec moi, cette cousine a incarné cela. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai perdu mon père aussi quand j'avais 10 ans. Et là, ma famille iranienne a vraiment pris le relais affectivement parlant. Donc je n'ai pas vécu avec eux, hein, s'entend bien. Mais ils étaient extrêmement présents. Alors à travers l'écriture, à travers une correspondance extrêmement dense que j'entretenais avec Shirin, ma cousine, qui en plus avait 4 ans de plus que moi, donc qui était un peu maternante, enfin qui avait ce côté-là. et puis à travers bien sûr des séjours, alors séjours fréquents de ma famille iranienne en France, et puis ensuite des séjours que moi-même j'ai effectués en Iran par la suite. Au moment de mon adolescence, ce qui est le moment où l'on se construit, hein, où, beaucoup je dirais, voilà, je pense que j'étais vraiment happée par cette figure de ma cousine qui était réellement un mentor, qui était un... Je voulais croire en tout cas que c'était une forme de double, et on était extrêmement proches. Au point que, grande adolescente, jeune adulte, j'ai fait des voyages en Iran qui étaient presque initiatiques, alors que ce n'était pas mes premiers voyages là-bas, mais ils étaient initiatiques dans le sens où c'était mes premiers voyages sur une terre lointaine culturellement, familière affectivement, du fait de cette cousine, et dans lesquelles, une terre dans laquelle je me projetais. À cette époque-là, elle s'apprêtait en réalité à se marier, et moi qui ne rêvais que de vivre auprès d'elle, en réalité je me disais que je pourrais peut-être bien faire pareil et moi aussi m'installer là-bas. Donc ce lien avec l'Iran, il est à la fois inné, c'est-à-dire que j'ai rien fait pour au départ, c'est juste des circonstances familiales qui l'ont créé. Et puis ensuite, il s'est développé parce que les circonstances de ma vie ont fait que je suis tombée en amour avec ce pays à travers ma cousine, je dirais, voilà. Malgré toutes les difficultés que je nie aucunement, hein, mais là je parle du côté émotionnel de la chose. Et puis ensuite, il s'est développé aussi parce que moi, par la suite, je l'ai construit, et notamment à travers l'écriture.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bon, clairement, on va parler d'Iran dans ce podcast, mais pas que, encore une fois. Donc j'ai bien compris que dans tout ton cheminement familial, l'Iran a toujours été très présent, notamment à travers cette cousine. Et donc ton premier voyage a été l'Iran, ou est-ce que tu as eu d'autres endroits, d'autres destinations qui t'ont appelé, ou c'était vraiment que ça dans ta tête et c'est le premier voyage que tu as fait ?
Alors moi j'avais des parents baroudeurs, j'avais un van, enfin ils avaient un van quand j'étais enfant, donc non, j'ai fait d'autres voyages avant le voyage... concret et géographique, en tout cas en Iran, même si l'Iran a toujours été présent, mais mon goût du voyage me vient davantage de mon père en réalité. Je dirais que mon goût du séjour et ancrage à l'étranger me vient peut-être de cette famille iranienne qui est donc du côté maternel, hein, mais mon goût par contre de l'itinérance, là c'est plutôt quelque chose qui me vient du côté de mon père. Donc enfant, on allait beaucoup en Italie, en Suisse, en Autriche, il était alpiniste, donc nos vacances c'était les montagnes plutôt que la mer, voilà. On allait jusqu'en Tchécoslovaquie, c'était encore la Tchécoslovaquie à cette époque-là, en 91, c'était notre dernier grand voyage ensemble. Et ces voyages m'ont aussi construit d'une certaine manière, dans le sens où je ne suis pas quelqu'un qui a peur de voyager, par exemple. Parce que c'est vrai qu'à une époque, peut-être un peu moins maintenant, mais ben, quand je disais que j'allais en Iran, par exemple, les gens me disaient « mais tu n'as pas peur ?» Et en fait, non, moi, j'ai pas peur de voyager, du fait que ça a été désacralisé très vite, cette histoire, quand j'étais enfant, je pense, enfin, désacralisé... pas dans le sens où ça serait banal de voyager, pas du tout, à chaque fois c'est une chance précieuse. Et par ailleurs, j'ai aussi fait d'autres voyages. Alors j'ai fait un autre voyage en miroir un petit peu du voyage en Iran, qui est le voyage aux États-Unis, puisque alors je sais pas si on peut dire que c'est un comble, mais en tout cas c'est quelque chose d'amusant. Ma mère donc est née entre deux sœurs. Sa sœur aînée s'est mariée à un juif irakien dont toute la famille avait émigré en Israël, qu'elle a rencontré en Angleterre et avec lequel elle a émigré aux États-Unis, où elle a fondé une famille, et j'ai donc d'autres cousins états-uniens, voilà. Et ma tante iranienne, comme je vous le disais, elle s'est mariée à un Iranien et elle est allée vivre en Iran. Donc j'ai vraiment grandi entre ces deux pôles qui s'opposaient très fort à un moment de l'histoire, qui s'opposent encore d'ailleurs, mais voilà, en termes géopolitiques, au moins en tout cas, ils s'opposent. Donc j'ai aussi fait le voyage aux États-Unis et j'ai beau porter ma tante américaine dans mon cœur tout autant que ma tante iranienne. Clairement, quand j'étais adolescente, j'avais, sans que personne ne me le demande, l'impression qu'on me demandait de prendre parti. Et en réalité, je prenais le parti iranien. Voilà, donc j'ai fait d'autres voyages, mais tous se situaient un petit peu en dehors des voyages paternels, je dirais, de l'enfance. Tous mes voyages suivants à partir de l'adolescence, je les situais tous et je les comparais tous à ce voyage iranien qui était aussi une forme d'ancrage plus profond. Je précise que j'ai aussi vécu à l'étranger, j'ai vécu un an au Portugal, j'ai vécu 4 ans en Tunisie, donc c'était à nouveau de grands voyages, de grands séjours. Et malgré tout, aujourd'hui, alors que je n'ai jamais vécu, c'est l'Iran qui reste très fort présent dans mon... Bah, en tout cas dans mon travail d'écriture, et du coup dans mon travail psychologique, je dirais. Voilà.
Waouh ! Le bouquin qui est là, Iran, la paupière du jour, donc tu l'as écrit à quel moment ? C'est lors de ton premier voyage ? Est-ce que tu savais que tu allais écrire sur l'Iran ? Est-ce que tu as toujours eu la plume avec toi dans tous tes voyages ? Ou parle-moi un peu de cette aventure littéraire, comment est-ce qu'elle t'est venue ? Et qu'est-ce que tu as envie de transmettre à travers ce livre ?
Donc mon premier voyage en Iran, j'avais 13 ans, je n'écrivais pas encore, hein, donc je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre. Je suis partie avec ma maman et nous avons retrouvé en Iran, puisqu'ils y vivent, ma tante, mon oncle, ma cousine surtout, mon cousin, alors là il n'y avait pas encore de beau-frère ni quoi que ce soit, mais en tout cas c'était à cette époque-là, oui tout à fait, c'était familial. Ensuite, quand j'ai eu 19 ans, j'ai fait d'autres voyages bien sûr, mais il y a un voyage qui m'a particulièrement marqué, c'était celui que j'ai fait quand j'avais 19 ans, au moment où elle s'apprêtait à se marier, j'en parlais tout à l'heure, et là je l'ai vécu de façon très très violente, dans le sens où j'étais à la fois émerveillée par ce qui se passait, émerveillée par notre... c'est incroyable, mais par notre liberté, alors qu'elle est extrêmement contrainte pourtant en Iran, cette liberté, mais nous on évoluait dans les interstices, dans les failles, et la liberté apparaît encore plus fort en réalité quand on la prend par des chemins de traverse. Enfin, en tout cas, la sensation de liberté était pour moi à cette époque-là très forte. Voilà. Et donc ce voyage m'a profondément marquée, mais c'était si violent que je n'ai pas du tout pu l'écrire tout de suite, et quand j'y suis allée, ce n'était pas pour l'écrire. Du temps a passé. Le voyage était violent aussi parce que c'est le moment où ma cousine s'apprêtait à se marier, comme je l'ai dit, et en réalité, elle l'a fait, et elle s'est détachée de moi par la suite. Donc, mon histoire avec l'Iran n'est pas une histoire de long fleuve tranquille, c'est une histoire tumultueuse. Il y a un moment où j'ai un peu rejeté, en réalité, ce grand amour que j'avais de cette partie de ma famille et de ce territoire. Beaucoup de temps a passé, presque 20 ans ont passé, 17 ans ont passé, en réalité. Et malgré tout, j'avais toujours ce feu en moi. J'allais régulièrement en Iran, bien entendu, mais c'était vraiment ce voyage-là qui m'avait marqué. Et par ailleurs, je développais un grand amour de la littérature et de l'écriture de par ma profession. Je travaillais pas mal avec l'édition, j'ai été prof de lettres avant, etc. J'écris beaucoup, j'écrivais de la fiction que je n'ai jamais publiée. Et puis, j'ai parlé à un ami éditeur qui s'appelle Christophe Rella, qui est maintenant réalisateur de documentaires. Voilà. Et je lui disais, mais en fait, j'ai en moi quelque chose qui me pousserait à écrire sur ce territoire, mais j'ai besoin de couler mon écriture dans un projet clair et bien balisé. Et là, j'ai évoqué une histoire dont je n'ai pas encore parlé ici, qui est le fait que, tout à fait indépendamment de l'histoire de ma famille maternelle, en 1956, mon père, bien avant donc qu'il ne rencontre ma mère, qui était alpiniste, a fait une expédition en Iran et 3 ouvertures, donc dans le massif de l'Alamkou, qui est un massif de l'Alborz, et au Damovan, qui est le point culminant de l'Iran, à 5610 mètres, qui est un volcan semi-actif. Et j'avais cette espèce de conte, de légende iranienne, basée sur des faits réels, hein, bien entendu, en tête. Et ce que j'ai dit à mon ami éditeur, le jour où je lui ai parlé de cette pulsion d'écriture que j'avais et qui devait se dérouler sur la page iranienne, ce que j'avais en tête, c'est que je lui ai dit, mais je pourrais en fait refaire le voyage qu'a fait mon père et, à travers ce voyage, évoquer mon Iran personnel en passant par celui de mon père. Il m'a encouragé, il m'a dit que j'écrivais bien, il a été très soutenant, mais il m'a dit, en termes de logistique, ça va être compliqué, tu devrais tout simplement livrer directement ce que tu as en toi et ce qui semble se concrétiser autour de cet été particulier. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai écrit « Iran, la paupière du jour », en me livrant un travail de mémoire en même temps, à la fois un travail de mémoire et un travail d'écriture. Et ce qui m'a permis tout de même de donner une structure à mon texte, c'est que... je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Il y a quelques années, en 2015, en fait, il y a un accord sur le nucléaire qui a été signé avec l'Iran, donc qui faisait en sorte que l'Iran ne se procure pas la bombe nucléaire, mais en revanche, que le pays puisse développer le nucléaire civil pour avoir de l'électricité. C'est un accord qui avait été signé par Barack Obama. Et le président Rouhani, le président réformateur de l'époque en Iran. Cet accord était vraiment un moment d'espoir pour l'Iran, parce que ça signifiait la levée de sanctions, une forme de normalisation des rapports avec l'Occident et leur figure de proue que sont les États-Unis. Voilà. Et en réalité, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, une des premières mesures qu'il a prises pour, je pense, justement rejeter l'héritage de Barack Obama, c'est qu'il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qui a été vécu comme une abominable trahison, bien entendu, en Iran, et ce qui a profondément renforcé les conservateurs, en réalité, puisque c'était un modéré qui avait signé l'accord dévoyé. Donc, il est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, et par ailleurs, il a repris les hostilités avec ce pays, en réalité, qui était un peu latente. Hein. De toute façon, la mésentente est claire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un général qui s'appelle le général Soleimani, qui était le bras armé, je dirais, de la République islamique, qui était un criminel, que les choses soient claires, qui se trouvait à ce moment-là à Bagdad, puisque l'Iran a une politique agressive hein, dans la région, à l'échelle du Proche-Orient. Ce général a été assassiné par la CIA, en fait. Évidemment, c'était une horrible personne, mais en termes géopolitiques, ça a, disons, jeté de l'huile sur le feu. Et les soutiens de Soleimani, donc ce général assassiné en Iran, ont dit que les familles de soldats iraniens se trouvant au Proche-Orient commencent à pleurer leurs soldats, nous allons nous venger. C'était seulement des mots pour l'instant. Hein. Et Trump a rétorqué, si jamais il y avait des représailles, suite à cet assassinat donc, sachez que j'ai une liste de 52 lieux importants pour l'Iran et la culture iranienne que je n'hésiterai pas à bombarder si jamais il y avait des représailles. Et là, beaucoup de voix se sont élevées, dont la mienne, en disant les lieux importants pour la culture iranienne ne sont pas importants que pour l'Iran, ils sont importants pour l'humanité entière. Voilà, donc il y avait, ce crescendo. Finalement, il n'y a pas eu de bombardement, hein, ça s'est arrêté là, voilà. Mais cependant, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire l'Iran, ce n'est pas qu'une menace nucléaire, ce n'est pas que cela, c'est aussi autre chose. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en réalité, ça m'a donné la structure de mon livre. Je me suis dit, il est urgent, en fait, de célébrer les lieux de l'Iran, qui ne sont pas du tout forcément les lieux que Trump évoquait, qui ne sont pas nécessairement que les hauts lieux touristiques, qui ne sont pas non plus seulement forcément que les lieux auxquels tout le monde pense, je dirais, mais qui sont des lieux plus petits, des lieux du quotidien, etc. Et donc, j'ai coulé mon texte dans 52 chapitres qui correspondent à 52 lieux. Et je raconte cet été singulier, donc j'y reviens, que j'ai vécu avec ma cousine quand elle s'apprêtait à se marier, en évoquant chez la coiffeuse, au pied du lit de Shirin. Shirin, c'est ma cousine, donc le moment quand on se réveille, donc j'évoque ce lieu-là, au bord de la piscine. Et donc, je narre à la fois cet été au travers lequel on s'achemine vers des fiançailles. On ne sait pas encore avec lequel de ces prétendants ça se déroule, ça sera, ces fiançailles. Maintenant, je le sais, mais moi, je ne le dis pas, parce que c'est l'avenir l'avenir du livre qui l'a dit. Je coule ça à travers 52 lieux. Voilà pour la jeunesse du livre. Et par rapport au message, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois on dit que l'Iran, c'est le pays des mollahs. Non, ce n'est pas le pays des mollahs. C'est le pays de Shirin, qui passe dans les interstices et qui tourbillonne pour aller voir tel ou tel garçon. C'est le pays de Sohel, l'un de ses prétendants qui est parachutiste et qui se jette dans le ciel pour éprouver sa liberté. C'est le pays d'Azadeh, qui est une jeune fille qui fabrique des bijoux en or pour mettre en valeur la femme iranienne sous le foulard, parce que c'est là qu'il faut attraper parce que du coup tout se concentre sur le visage, mais qui pourrait aussi très bien mettre en valeur la beauté des femmes sur leur chevelure noire et pas seulement sous le foulard. Voilà, c'est ça l'idée que j'ai envie de transmettre, parce que en fait, quand on parle d'Iran en France, on parle toujours de combat politique, et il est très important d'en parler. Évidemment, il ne faut surtout pas les oublier, et surtout pas aujourd'hui avec la révolte qui se passe suite à la mort de Mahsa Amini, hein. Mais un pays ne peut pas se résumer qu'à ça, si vous voulez. Donc il y a aussi une vie quotidienne qui est intéressante, il y a aussi autre chose. C'est un pays qui n'est pas que le pays des mollahs, il est le pays de beaucoup d'autres histoires.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage,
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Pourquoi est-ce que l'Iran fascine beaucoup de gens et de voyageurs? J'imagine que quand tu commences à parler de ton histoire et de l'Iran, plein de gens rêvent de ce pays.
Alors, je dirais que... Bon, d'abord, il y a l'influence de ce qu'on appelle l'orientalisme, qui est... ça correspond à un mouvement artistique, mais disons qu'on a tous un peu une image des mille et une nuits, je pense, qui fascine un peu. Et moi, la première, hein. Et moi, quand je vais en Iran, je sais que j'ai ce filtre-là. J'ai le filtre des mille et une nuits devant les yeux, qui fait que j'ai envie de retrouver dans ce que j'ai sous les yeux quelque chose de cette image-là. On a tous un horizon d'attente. Et quand on voyage, et quand on ouvre un livre, enfin, on a toujours des horizons d'attente qui biaisent un peu notre perception de la réalité, qui l'enrichissent aussi d'une certaine manière, hein. Voilà, il suffit d'en être lucide. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'orientalisme qui est assez présent effectivement quand les gens m'interrogent par rapport à l'Iran. Après, il y a aussi d'autres personnes, moi, que je rencontre, qui sont plus hostiles. Moi, je me suis beaucoup confrontée à ce regard-là aussi, hein, quand j'étais adolescente, puis adulte, qui voient vraiment l'Iran que comme un pays de répression. C'est de fait un régime ultra répressif qu'il faut combattre, mais de la manière la plus judicieuse et la plus subtile possible. Hein, voilà, je n'appelle pas au combat frontal, pas du tout. Hein, c'est aussi un pays dans lequel il y a une culture séculaire, voilà, qui est toujours présente. À titre d'exemple, la fête la plus célébrée en Iran, qui est une république islamique, ce n'est pas du tout l'Aïd, c'est Nowruz, le nouvel an iranien, qui est une fête d'origine zoroastrienne, pendant laquelle on saute par-dessus des feux, et c'est le premier jour du printemps, en réalité, la nouvelle année iranienne, etc. Donc cette culture, après 40 ans de régime islamique, elle est toujours là, et c'est ça qu'on célèbre le plus, en fait. Donc cette influence zoroastrienne qui est là, mais en tout cas malgré tout des gens auxquels je parle ont l'image d'un pays qui est tout entier défini par le tchador qu'a jeté sur lui le régime islamique et le collège religieux qui le dirige en réalité davantage encore que le président. Et à ces gens-là, j'essaie de leur dire non, il y a d'autres choses, il y a d'autres modèles. Après, si l'Iran fascine, peut-être qu'en ce moment aussi, pour être très très dans ce qui se passe actuellement, voilà, il y a un regain d'intérêt pour l'Iran, c'est un peu sporadique, hein, voilà, parce que donc il y a eu le meurtre terrible de Mahsa Amini par les gardiens de la révolution, que suite à cela il y a donc des manifestations de femmes iraniennes, mais également d'hommes iraniens, hein, puisque le combat contre le foulard, puisque Mahsa Amini ne portait pas de foulard, enfin avait son foulard qui était légèrement tombé, mais comme le sont plein de foulards sur la tête de plein de femmes dans les villes, là il se trouve qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec elle, mais ça fait depuis longtemps maintenant qu'on porte le foulard de façon relative, je veux dire, dans la ville iranienne. En tout cas, je pense que là les gens s'y intéressent à nouveau. Voilà, il y a ce collectif d'artistes qui s'est coupé une petite mèche de cheveux en soutien à Mahsa Amini, ce qui est très bien. Il y a des gens qui disent c'est superficiel, c'est pour attirer l'attention sur elle, etc. En fait, moi j'ai plein d'échos de femmes en Iran qui admirent Juliette Binoche et Isabelle Huppert, et qui, même si c'est peut-être un peu facile, et ben elles disent pas c'est trop facile par rapport à nous qui nous battons. Elles disent, en tout cas moi, les femmes auxquelles je parle, on est très contentes de voir que des grandes actrices nous soutiennent, ça nous fait plaisir, et donc il faut pas négliger ce genre de choses. Donc je pense que le côté combat féministe irrigue aussi l'image, enfin la pensée qu'on peut avoir de l'Iran aujourd'hui, ce qui est bien. Voilà, donc moi on m'interroge beaucoup quand on m'interroge sur l'Iran, on m'interroge beaucoup sur la condition des femmes, donc évidemment j'en parle. Il y a cette question du foulard qui est ultra symbolique, qui symbolise le régime islamique, qui effectivement est quelque chose qui est en train de toute façon de tomber et qui tombera, quel que soit le degré de la répression qui s'abattra sur l'Iran. Je ne sais pas à quel terme, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le fait que les femmes iraniennes héritent deux fois moins que les hommes iraniens, par exemple. Dans l'héritage familial, une sœur hérite d'un héritage deux fois moindre à son frère, par exemple. Voilà, il y a la question de la justice qui est extrêmement inégalitaire. Donc le foulard, c'est le symbole, si vous voulez, mais il y a des choses beaucoup plus structurelles, évidemment, à changer. Et il ne faudrait surtout pas que, parce que la République islamique, par exemple, je ne sais pas, un jour ou l'autre, permette qu'on enlève le voile, qu'on arrête de se battre sur ces autres questions, si vous voulez, qui sont tout aussi importantes.
Pour en revenir à l'histoire du foulard et du voile, à quel moment il est apparu dans la société iranienne? C'est pas quelque chose qui a toujours été présent?
Alors, c'est quelque chose qui a été systématisé au moment de la Révolution. De toute façon, moi, quand j'y suis allée jeune, c'était déjà la République islamique qui s'est installée en 79. Moi, je suis née en 82. Mais ce qu'il faut tout de même, je préfère quand même, je le dis quand même, à l'époque du Shah, il y avait déjà des femmes voilées dans les classes populaires. Puisqu'en réalité, à l'époque du Shah, il y avait davantage de liberté, mais principalement dans l'élite culturelle du pays. Dans l'élite culturelle et financière, et enfin dans l'élite d'une manière générale. Mais en réalité, la monarchie laissait de côté une très large partie de la population qui était très pauvre et qui n'était pas... Enfin, ce n'était pas un régime démocratique et qui, en réalité, soutenait tant que ça sa population en difficulté. Donc, il y avait déjà le foulard à cette époque-là, mais pas dans les classes qu'évidemment on filmait quand on venait à Téhéran, qui était la capitale, et qu'on était un journaliste européen. Non, là, du coup, effectivement, on avait des femmes habillées à l'occidental, des choses comme ça. Mais si la révolution islamique a été possible, c'est parce qu'en réalité, il y avait toute une autre partie de la population qui, elle, voyait en réalité dans l'islam une manière de mettre en place une société plus égalitaire, puisque la société était très inégalitaire à l'époque du Shah, malheureusement. En même temps, il n'y a pas du tout que les islamistes qui ont fait la révolution. Il y avait aussi des communistes, il y avait aussi des gens qui avaient une vision beaucoup plus ouverte et démocratique, bien entendu, et qui se sont fait usurper leur révolution, qui ont été décimés par des purges d'intellectuels, etc., etc., une fois que Khomeini a été au pouvoir. En tout cas, moi, quand je suis allée en Iran les premières fois, il y avait des foulards beaucoup plus couvrants, et petit à petit, au fur et à mesure que j'y allais, je voyais les foulards devenir parfois très très fins sur les cheveux. Les filles iraniennes sont à la fois très belles, on le dit beaucoup, mais et extrêmement coquettes également. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très présent. Donc j'ai vu cette évolution, et là ce qui se passe, c'est qu'en réalité, suite donc à l'affaiblissement des modérés, du fait entre autres que Trump a déchiré l'accord sur le nucléaire, c'est un président conservateur et même ultra conservateur, Raisi, Ebrahim Raisi, qui a été élu, et lui du coup il veut affirmer sa place de conservateur, et c'est pour ça que maintenant on repart en arrière au niveau du foulard, ce qui est absolument terrible. Donc jusqu'à présent, là, depuis la révolution, le foulard ne faisait que tomber petit à petit sur les épaules des femmes iraniennes, et là maintenant d'un coup on leur remet sur la tête, et bien malin qui pourrait prévoir la suite, hein. Peut-être ce que je pourrais dire, c'est que j'y suis allée moi l'été dernier en Iran pour faire de la montagne pour mon prochain livre qui s'appellera Vertige Persan. J'ai été accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Zoré Ofori, qui est guide de haute montagne, alpiniste iranienne. Donc on allait en montagne, on allait en réalité sur les traces donc des expéditions de mon père qu'il avait fait en 56. Mais donc j'ai vécu la haute montagne, donc les nuits en refuge, voilà, avec une femme iranienne guide de haute montagne qui, je peux vous le dire, mettait son foulard le moins possible et qui, en montagne, ne l'avait absolument pas, ni moi-même d'ailleurs, hein. Non seulement quand on avait nos casques d'alpiniste, mais même quand on était au refuge, je veux dire. On ne se couvrait absolument pas dans ces moments-là. Et c'est ça qui, moi, m'a toujours complètement séduite en Iran, c'est que malgré cette adversité qui est énorme, cette répression, etc., il y a toujours une vie qui s'exprime à travers ces femmes qui, malgré tout, se battent et qui deviennent guides de haute montagne. Et ça, je ne sais pas... Il y a beaucoup de gens qui, quand ils pensent à l'Iran, pensent que les femmes sont soumises à la maison, enfermées à la cuisine. Non, il y a plein de femmes qui se battent. C'est très difficile pour elles, mais il y a encore ce combat-là. Vous voyez, on n'est pas à l'état de mort cérébrale du féminisme en Iran. Pas du tout. Donc c'est...
Waouh, tu es intarissable, Émilie. Donc tu disais un nouveau bouquin en préparation, donc sur la montagne. Donc finalement, tu fais quoi? Tu vas terminer ce que ton papa avait commencé il y a plusieurs années?
Mais quelle belle intuition, c'est tout à fait ça. Donc c'est un livre qui paraîtra aux éditions Guérin chez Paulsen. Et est-ce que je vais achever ce qu'a fait mon père? Donc mon père, ce qui est intéressant si on le prend du côté de l'acte créatif et de l'acte narratif, de la narration, mon père, c'était quelqu'un qui lui racontait des histoires à l'oral, comme ça, c'était un grand inventeur. C'était aussi un grand affabulateur. Alors quand j'étais enfant, c'était formidable parce qu'il avait une imagination débordante, mais je pense qu'il a eu beaucoup de soucis avec d'autres personnes adultes, comme lui, qui n'appréciaient pas trop qu'il distorde de la réalité telle qu'il le faisait. Et je me suis beaucoup penchée sur cette question au cours de l'écriture de Vertige Persan pour déceler le vrai du faux de ce que j'avais entendu et également des traces que je retrouvais. Donc ces traces, c'était à la fois un film au Super 8, filmé au Super 8, pardon, que mon père avait fait à l'époque de l'expédition en 56. mais qu'il avait découpé, monté, remonté, où il avait greffé d'autres images. Enfin voilà, même un film documentaire, c'est toujours un montage, hein. Il y a toujours un point de vue subjectif qui s'exprime. Et puis c'était aussi des carnets de courses et des articles parus dans la revue du Club Alpin français en 54 et en 56, qui là n'émanait pas de mon père et qui du coup me permettait d'avoir un regard plus objectif, vous voyez. Donc j'ai fini de raconter cette histoire, je dirais, en rétablissant certains éléments, tels que les altitudes, par exemple, qui avaient été un petit peu augmentées, non pas seulement par mon père, hein, mais également parce que alors les cartes en 56 étaient complètement... étaient très fausses, en réalité. C'était vraiment une exploration hein, qu'ils avaient faite. Et puis aussi les Iraniens eux-mêmes, parce qu'il y a une fierté iranienne hein, qui existe, qui est très présente. Et non seulement leurs pistaches sont les meilleures du monde, mais en plus, leurs montagnes voilà, sont hautes et un peu plus que ce que le dirait la science, peut-être. Enfin, en tout cas, les Iraniens qu'ils avaient croisés à cette époque-là avaient un peu augmenté les altitudes. Donc, je dirais que j'ai un peu tiré au clair certains éléments indistincts de cette histoire. Et puis, par ailleurs, je l'ai d'une certaine manière enrichi. Et lui, il m'a fait un merveilleux cadeau, en fait, en me livrant ce film au super vite qui a attiré mon attention. Parce que moi, ça m'a permis d'y retourner et de greffer mon histoire et celle de Zoré Ofori, donc cette héroïne iranienne, cette guide, à la sienne. Puisque donc, dans Vertige Persan, dans le livre, on a une alternance de chapitres. Certains chapitres sont constitués parce que je parviens à reconstituer de l'expédition de 56. Donc je relate leur histoire depuis le départ de Saint-Étienne. C'était des petits ouvriers de Saint-Étienne qui avaient mis toutes leurs économies, qui sont partis en bateau, qui sont allés jusqu'au Caire en bateau, puis en Syrie. Ensuite, ils ont traversé le désert syrien. Enfin, c'était toute une expédition. Voilà. Donc je relate cette histoire, leurs ascensions, que je reconstitue. Et puis, en parallèle, je relate, moi, mon voyage plus féminin, je dirais, avec Zoré. Et tout ceci est émaillé également d'une réflexion sur ce que c'est que la filiation, puisque moi, à travers ces voyages, je me souviens aussi. Je me souviens de ce qu'était mon père. Et est-ce que je finis l'histoire qui est de ma relation avec mon père? Non, je la finis pas. Je la fignole. Mais l'histoire d'une relation, elle se finit quand les deux protagonistes ne sont plus là. Donc, je poursuis, je dirais, l'histoire initiée par mon père dans la montagne iranienne, en l'arpentant à mon tour et en y incluant aujourd'hui une Iranienne qui y est ma guide tout autant que mon père.
Émilie Talon, merci beaucoup. Je t'arrête, je te coupe la parole. Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast s'appelle Regarde ailleurs et donne la parole à ceux que je rencontre sur mon chemin de photographe voyageur, ceux que j'aime interviewer, ceux qui pour moi sont inspirants, partant de l'idée qu'une personne, que le parcours de vie d'une personne peut en inspirer beaucoup d'autres. J'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à en retrouver d'autres sur toutes les plateformes de streaming en tapant Regarde ailleurs.